Donc cette dernière session de l'après-midi qu'on m'a demandé de présider, je suis Philippe Descola, collègue d'Antoine Compagnon, et je vais donc donner la parole tout de suite aux premiers intervenants, Catherine Fima et Roland Lardinois, qui vont nous parler des archives, des traces d'archives, c'est-à-dire essentiellement la correspondance entre Sylvain Lévy et Marcel Mauss.
Merci beaucoup. Et d'abord, nous voulons exprimer nos remerciements aux organisateurs de cette journée d'études pour leur invitation à partager nos réflexions autour des archives de Marcel Mauss en relation avec Sylvain Lévy. Alors, le travail que nous vous présentons, Catherine Fima et moi, porte sur la correspondance entre Sylvain Lévy et Marcel Mauss, dont nous préparons l'édition. Cette correspondance, conservée dans l'imposant massif d'archives que constitue le fonds Marcel Mauss du Collège de France, compte plus de 150 lettres. Donc c'est beaucoup moins que les centaines de lettres, c'est pas peut-être 500 ou plus, de Durkheim à Mauss, mais la correspondance Sylvain Lévy occupe un bon rang, peut-être encore derrière la correspondance avec Hubert, mais c'est plus que la centaine de lettres que j'ai compté approximativement entre Mauss et Meillet. Alors, associer les noms de ces deux professeurs au Collège de France et éditer les correspondances qu'ils ont eues engage cependant à s'interroger d'emblée sur leur renommée, aujourd'hui où la réputation de Mauss semble faire pâlir celle des autres figures de la recherche de la première moitié du XIXe siècle dans les humanités et les sciences sociales, à l'exception probablement de Durkheim. Or, avant la Seconde Guerre mondiale, de ces deux savants, la figure éminente est celle de l'orientaliste, Sylvain Lévy, et non celle du sociologue Marcel Mauss, dont l'importance, au moins dans le champ universitaire français, date, on l'a rappelé ce matin, surtout des années 1970. Sylvain Lévy, né en 1863, mort en 1935, est l'aîné de Mauss de 9 ans et le cadet de Durkheim de 5 ans. Savant éminent des études orientalistes de son temps, Sylvain Lévy fut aussi le président de l'Alliance israélite universelle à partir de 1920 et jusqu'à sa mort. Donc, un intellectuel juif engagé dans les affaires politiques de l'après-première guerre mondiale, c'est-à-dire, pour le dire vite, la question du sionisme, celle de l'antisémitisme, de l'éducation des masses juives, de la défense des valeurs de la Révolution française. Mais aujourd'hui, la situation est à front renversé et Sylvain Lévy occupe une position mineure au regard de Mauss et de Durkheim, dont il fut également proche. Alors, revenons aux archives, parce que cette position minorée de Sylvain Lévy demanderait un autre exposé. Donc, revenons aux archives. Malgré leur abondance, la correspondance Lévy-Mauss, comme celle de Durkheim, se caractérise par une double absence. La première absence est celle de Mauss lui-même, dont on ne conserve que 8 lettres, des doubles carbones, écrites à Sylvain Lévy, et à son fils, Daniel Lévy. La seconde absence qui explique la première est la dispersion des lettres reçues par Sylvain Lévy. Nous disposons donc essentiellement des lettres envoyées par Sylvain Lévy, ce que l'on nomme une correspondance active, puisque nous sommes privés des lettres de Mauss reçues par Sylvain Lévy. Alors, face aux archives de Marcel Mauss, il faut donc poser la question des traces d'archives, des absences, des manques avec lesquels il nous faut compter. Et ce sera l'objet des réflexions que je présenterai dans la première partie de cet exposé. Dans la seconde partie, dont traitera Catherine Fima, notre interrogation se portera plus particulièrement sur cette correspondance Lévy-Mauss. Il apparaît que cette correspondance repose sur un type particulier de relation, celle d'une amitié qui dépasse le lien professionnel pour être prise dans une relation de type familial. Donc j'en viens à notre première partie, archives et traces d'archives. L'édition de la correspondance entre Sylvain Lévy et Marcel Mauss s'inscrit dans une recherche plus large que j'ai engagée sur Sylvain Lévy il y a maintenant une quinzaine d'années et qui a déjà donné lieu à l'édition de plusieurs corpus de correspondance de Sylvain Lévy, un travail que j'ai souvent mené en collaboration. Alors, pour situer un peu ce corpus, je mentionnerai une correspondance avec des orientalistes russes, en particulier Sergueï Goldenberg, qui était un sanskritiste, un bouddhologue, secrétaire de l'Académie des sciences de Russie, et autour de cette relation entre Sylvain Lévy et Sergueï Goldenberg viennent s'agréger d'autres orientalistes français et d'autres orientalistes russes. J'ai publié également la correspondance avec le sinologue Paul Pelliot, à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu ici sur Paul Pelliot. Nous avons également publié les correspondances de Sylvain Lévy avec son neveu, l'écrivain Jean-Richard Bloch, et avec Jacques Bigard, secrétaire de l'Alliance israélite universelle. C'est une correspondance tout à fait particulière. Ce sont celles écrites par Sylvain Lévy lorsqu'il est en mission hors de France, essentiellement en Asie, en Inde et au Japon, et qu'il est président de l'Alliance israélite universelle. Signalons également la correspondance de Sylvain Lévy avec des orientalistes allemands, qui a été publiée par Pascal Rabault, et le travail en cours que je prépare avec Annick Fenet sur l'édition des correspondances de Sylvain Lévy avec Aurel Stein, un orientaliste britannique d'origine hongroise. Alors, si je rappelle ces publications, c'est essentiellement pour souligner le problème auquel se heurte une recherche sur Sylvain Lévy. Dans tous les cas de correspondance évoquée, publiée de Sylvain Lévy, à l'exception des orientalistes allemands, qui est un petit corpus, nous traitons d'une correspondance active, puisque les lettres reçues par Sylvain Lévy ont été détruites par sa femme, par Désiré Lévy, et que les archives de Sylvain Lévy ont été également détruites ou dispersées, à l'exception d'un modeste fonds qui a été versé récemment au service des archives du Collège de France. Alors, face au massif des archives de Mauss, nous sommes bien confrontés à des traces d'archives en ce qui concerne Sylvain Lévy. Et l'histoire des archives de Sylvain Lévy peut être reconstituée, notamment grâce à diverses correspondances. Alors, je vais juste brièvement évoquer cette histoire sur laquelle on pourrait donner de plus amples détails. Lorsqu'ils envahissent Paris en juin 40, les nazis disposent d'une liste des personnalités juives, mortes ou vivantes, ainsi que des institutions, notamment l'Alliance israélite universelle, qu'ils traquent. Lévy est sur ces listes. Il fut actif avec Durkheim pour contrer la propagande allemande pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, dès 1933, en tant que président de l'Alliance israélite universelle, Sylvain Lévy s'engage dans la lutte contre le nazisme et met toute son énergie pour porter assistance aux réfugiés allemands, comme ses lettres à Mauss en témoignent, et Sylvain Lévy meurt d'une crise cardiaque lors d'une séance de l'Alliance israélite universelle, en 1935. Alors, la suite de cette histoire des archives de Sylvain Lévy, on l'apprend par la correspondance notamment de Désiré Lévy. Dès l'entrée des nazis dans la capitale, celle-ci a brûlé toute la correspondance reçue de Sylvain Lévy qu'elle avait classée, ne voulant pas que cette correspondance tombe aux mains des Allemands et qu'ils puissent remonter les milieux juifs intellectuels autour de Sylvain Lévy. En juillet 1941, réfugié en Ardèche, à La Mastre, après être passé brièvement par Vichy, Désiré Lévy informe Marcel Mauss que leur appartement de Paris, rue Guy de la Brosse, près du Jardin des Plantes, a été pillé en juin 1941, on connaît la date exacte, par une correspondance d'après-guerre de Daniel Lévy, qui était diplomate. Alors, à ce moment, 1940-1941, après le pillage de l'appartement des Lévy à Paris, l'histoire des papiers de Sylvain Lévy, saisi dans son appartement parisien, se confond avec le destin des prises de guerre allemandes en France, butin transporté à Berlin, puis saisi par les Russes à Berlin, qui ont ensuite transféré ces fonds pillés à Moscou, et ils ont été conservés jusqu'à la fin des années 1990, lorsque la Glasnost a ouvert ses archives et préparé leur retour, notamment en France. Alors, on connaît cette histoire grâce aux travaux d'historiennes américaines ou françaises, notamment Patricia Kennedy Grimstead et Sophie Curé, et aux recherches également personnelles que j'ai menées sur le fonds Lévy. Alors, en regard de cette perte, de cette dispersion des archives de Sylvain Lévy, Marcel Mauss, malgré tout, traverse ces années de guerre, très difficilement, on l'a vu, il sauve sa personne, en partie ses archives, beaucoup moins, semble-t-il, sa bibliothèque, la bibliothèque de Sylvain Lévy, je pourrais en dire deux mots si le sujet intéressait. Alors, dans ces conditions, on comprend que le corpus des correspondances Lévy-Mauss auquel on aboutit résulte d'un long processus de sélection, de pertes qui peuvent parfois se combler. Ainsi, les derniers versements au Collège de France de la famille Mauss nous ont permis de récupérer plusieurs dizaines de lettres des Lévy, notamment les lettres de la période postérieure au décès de Sylvain Lévy en 1935, des lettres des années 40-43. Et on peut penser que d'autres lettres de Mauss au Lévy dorment encore dans des papiers de famille, peut-être pas du côté Mauss. L'histoire des archives des savants français d'avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils sont juifs en particulier, doit donc prendre en compte ces conditions singulières. Et le fonds Mauss, par son importance, est peut-être une exception dans un lot de destruction, de disparition, de manque. Dans le cas de Sylvain Lévy, nous sommes confrontés à un éparpillement des lieux où subsistent des traces d'archives ou de correspondances qu'il faut aller chercher en France, à Paris, mais aussi à l'étranger, en Russie, en Inde, aux États-Unis, en Hollande, sans que jamais la constitution d'un fonds Sylvain Lévy conséquent soit possible. L'édition de la correspondance Lévy-Mauss nous a donc conduit à interroger l'histoire des archives de ces savants avant que notre intérêt ne se porte sur leur contenu et sur le sens que cette correspondance a pu revêtir pour les correspondants eux-mêmes. Le cas de Durkheim, de Mauss, de Lévy, peut-être d'Erenac, et celui d'Hubert, qui ont été évoqués ici, auquel on pourrait ajouter le cas du fonds Robert Hertz, montre que si l'existence de fonds d'archives constitués et inventoriés ne fait pas la notoriété posthume de ces savants, l'absence de fonds peut contribuer à l'effacement de leur place dans l'histoire savante des années d'avant la Seconde Guerre mondiale et à l'oubli du rôle historique qu'ils ont pu avoir. Alors, je passe maintenant la parole à Catherine Fima qui va nous parler des correspondances et des traces de correspondances.
Alors, entrons dans la correspondance elle-même. Quel est le corpus ? Donc, nous avons 165 lettres au jour d'aujourd'hui qui couvrent les années 1896-1943, 1943 étant la date de décès de Désiré Lévy. À la question « Qui écrit ?», on peut répondre de la manière suivante. Nous avons 61 lettres de Sylvain Lévy seul, 45 lettres de Désiré Lévy seul, 51 lettres qu'on qualifie de communes ou collectives, et on a enfin 8 lettres de Marcel Mauss, dont une est adressée à Daniel Lévy. Alors, qu'entend-on par lettres collectives ou communes ? Ce sont surtout, en fait, des lettres familiales qui sont soit écrites par le couple Lévy, soit par d'autres membres de la famille qui s'associent. Le plus souvent, ce sont les fils Lévy, c'est-à-dire Abel et Daniel, et qui, parfois, eux-mêmes, écrivent seuls à Marcel Mauss. Mais parfois aussi, on a des membres de la famille que l'on peut dire élargis, par exemple Alice Bloch, une belle-sœur de Désiré Lévy, ou encore des amis de Mauss qui se trouvent en compagnie de Sylvain Lévy, comme Henri Hubert. Dans ces cas, le plus souvent, mais pas toujours, c'est Sylvain Lévy qui commence les lettres et les autres qui écrivent à sa suite. Il répète parfois le contenu des informations de sa lettre, et notamment Désiré Lévy, mais d'une autre manière et rajoute d'autres éléments. Il s'agit en fait toujours de signaler une présence. Alors, quelle est la chronologie que l'on peut dégager? On a plusieurs périodes assez soutenues, on a déjà dégagé ça ce matin et cet après-midi. On a le gros massif finalement de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, donc on a 45 lettres des Lévy à Mauss, et les années postérieures, 1921-1929, nous avons 29 lettres échangées, dont les 8 lettres de Mauss que j'ai mentionnées. Et ces années correspondent donc aux missions de Sylvain et Lévy, accompagnées par sa femme Désirée, qu'il a effectuées en Asie, et notamment en Inde, au Népal et au Japon. Dernière période enfin, après la mort de Sylvain Lévy en 1935, les années 1940-1943, années de l'exode et de refuge en zone sud, à La Mastre, pour lesquelles on dispose de 25 cartes et lettres écrites par Désiré Lévy et son fils Daniel. Ce sont donc ici les liens de Marcel Mauss et de Désiré Lévy qui se perpétuent après 1935, mais avec une tonalité, on s'en doute, un peu particulière, qui est celle du contexte des persécutions et de la peur, de l'inquiétude et le besoin de donner et prendre des nouvelles des uns et des autres. Alors la première chose que montre cette correspondance, c'est un type de relation spécifique. Même si la relation varie bien sûr en fonction des périodes, mais si l'on compare aux relations nouées avec d'autres, des correspondants dont Roland Lardinois établit les éditions et qu'il a rappelé tout à l'heure, Sylvain Lévy entretient dès le début de leur correspondance, 1896, un rapport particulier avec Marcel Mauss, qui est un rapport d'affection et d'intimité. Cette affection est renforcée pendant la Première Guerre mondiale, et c'est à partir de ce moment, d'ailleurs, qu'il faut noter le tutoiement de Sylvain Lévy vis-à-vis de son ancien élève. Le caractère affectif des relations est nourri, relayé et approfondi, finalement, par l'association de toute la famille. Au niveau formel, d'ailleurs, cela donne des lettres à écriture intriquée. Je vais vous montrer la première diapo. Voici un exemple. En 1926, Sylvain Lévy écrit... Est-ce qu'on a toute la lettre? Comment on fait?
Il y a deux diapos.
Oui, il faut pouvoir... Diaporama. Je ne vois pas. Voilà, merci. Donc, cette lettre est écrite de la maison franco-japonaise, et on voit là les écritures intriquées, première page et deuxième page. Première page, la lettre donc, est commencée exceptionnellement par Désiré Lévy. On voit la lettre ensuite d'Alice Bloch, qui est notée avec les initiales AB, et enfin Sylvain Lévy qui termine la lettre. En conséquence, notre parti pris éditorial est de publier l'ensemble de la correspondance sans aucune coupure, c'est-à-dire de prendre cette correspondance dans la configuration familiale où elle se développe. Car nous prenons au sérieux, finalement, le type de relation que Sylvain Lévy pose presque dès le début de leur relation, sous le signe d'une relation avinculaire, de la part de lui, mais également de sa femme, autrement dit, du couple qu'il forme avec Désiré Lévy, finalement comme un parallèle avec l'oncle Durkheim, bien entendu. Alors, sont en jeu dans cette configuration familiale, en premier lieu, la place des femmes d'eux. Dans ces échanges, effectivement, on peut se demander quelle place elles prennent, quelle place leur donne leur époux, et quelle place leur donne le chercheur dans l'édition des correspondances. En second lieu, il faut accorder également une place au couple, dont l'homme ici est un savant et la femme est une épouse, qui néanmoins prend en charge le cadre affectif, les sociabilités, et on sait par ailleurs que parfois elle se charge aussi des manuscrits. La question du couple dans ces correspondances est importante, car en regard, Marcel Mauss est célibataire jusqu'aux années 30. Le quasi-neveu qu'il est, place à laquelle il se maintient, favorise aussi la prise en charge familiale du couple Lévy à son égard. et en réaction son attitude à lui de fidélité. À cet égard, il n'est pas anecdotique de suivre les efforts de Sylvain Lévy, des Lévy de toute la famille d'ailleurs, qui s'ajoutent à ceux de la famille Mauss pour tenter de marier Marcel Mauss selon la forte endogamie propre aux familles juives de cette période. D'ailleurs, Sylvain Lévy lui avoue dans une lettre qu'il lui rédige qu'il aimerait bien être grand-oncle. On comprend bien que si on s'était privé des lettres de Désir et Lévy, ou des lettres communes de la famille et des amis, on ne pourrait comprendre l'intensité de cette configuration dans laquelle s'insèrent aussi les activités scientifiques de Sylvain Lévy et de Marcel Mauss. Et en particulier en 1918, pendant cette année, Sylvain Lévy est en mission en Palestine et il n'écrit pas. Et donc, si on n'avait pas pris les 11 lettres de Désiré Lévy pour les intégrer au corpus afin de montrer ce que Sylvain Lévy fait pendant ces années et ses préoccupations, on se serait privé d'éléments d'information. Alors, voici un exemple de cette lettre.
Lettre de Désiré Lévy à Marcel Mauss. Paris, mercredi 20 mars 1918. Mon cher ami, vos lettres pleines d'avertissements et de sages conseils auront été vaines. L'une est arrivée la veille du départ de Sylvain, et la dernière qui m'est parvenue hier m'a trouvé seul au logis. Sylvain est parti, et si heureux de partir, de pouvoir peut-être servir, de courir ce petit risque, de sacrifier lui aussi quelque chose que je n'ai rien osé dire pour l'en dissuader. D'ailleurs, j'ai la conviction, et les garçons avec moi, que si les Boches nous le laissent passer, cette absence de 3 ou 4 mois le détendra, le rafraîchira, lui sera salutaire. Et je vous prie de croire que ce n'est pas mon point de vue que j'expose. J'aurais préféré autre chose. Sylvain est parti et j'attends depuis 8 jours plein que je suis sans nouvelles, le télégramme qui me dira qu'il a heureusement traversé. Fin de citation.
Côté Marcel Mauss, on ne dispose d'aucune lettre manuscrite, mais souvent donc des doubles carbone, des lettres dactylographiées, et pour la seule année 1927. On n'a donc qu'un seul aperçu de son style d'écriture, qui est assez plat et factuel, quoique non dénué d'humour. Tandis que par contraste, le style de Sylvain Lévy, en tout cas, est plein de verve, d'humour, d'ironie, dénotant un goût certain pour l'écriture, qui ne se ressent pas à la lecture des lettres de Mauss. De même, Désiré, on vient de le voir, a son style propre, dynamique, enjoué et parfois exubérant. Si l'on continue la question de la forme, avant d'aborder la question des contenus, j'espère que j'aurai le temps, les supports fournissent des contraintes d'écriture et témoignent des moments d'écriture. L'encre des lettres utilisées, le type des cartes, par exemple, les façons de dater, les façons de nommer les gens, les abréviations, les signatures, les entêtes, le style de papier, les timbres, etc., et notamment pour la Seconde Guerre mondiale, sont un élément important des correspondances dont nous voulons tenir compte. Alors voici, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, un spécimen de lettres où Sylvain Lévy écrit à l'encre violette, et parfois ces lettres ne sont pas datées, mais ça nous a permis, grâce à l'encre violette et au style de carte, de dater les lettres qui manquaient, justement. Voici un autre exemple, celui de la Seconde Guerre mondiale, un spécimen de cartes pré-remplies, où Désiré s'adresse à Marcel Mauss en 1940. Et on voit les contraintes ici, par le régime de Vichy, qu'elle essaye de détourner d'une façon qui résonne de façon assez tragique. Par exemple, elle dit dans les premiers mots, « Vichy, le 8 novembre 1940, heureuse de vous savoir comme nous, en bonne santé figure dans le cadre pré-rempli. De ce détestable Vichy, je suis fatiguée. » Et elle prend la peine d'accorder le mot fatiguée. Vous voyez ? Mais sans doute le statut ne nous y laissera pas. Sous-entendu, le statut des Juifs. Alors, quelles sont les thématiques ici que l'on peut dégager ? Première thématique, on trouve tout ce qui concerne la vie quotidienne et ce sont des choses que l'on a retrouvées dans les lettres tout à l'heure dont on nous a parlé. La santé, les deuils, les naissances, les invitations à d'été, à des dîners, à la campagne, etc. On a également des traces, mais ce n'est pas du tout anecdotique, je trouve ça tout à fait passionnant, les marques de la modernité, dont les moyens de transport, le téléphone, le train, où est-ce qu'il faut descendre, qu'est-ce qu'il faut prendre. Deuxième thématique, les deux guerres mondiales. On s'en doute, c'est un gros massif. Pendant la première guerre, on mesure le degré et la nature du patriotisme de ces savants français et de leurs familles. L'identité juive française joue un rôle primordial, sacrifice de soi, don de soi, pour des raisons qui dépassent le soi propre. Voici à titre d'exemple une lettre de Sylvain Lévy pendant la première guerre.
Lettre de Sylvain Lévy à Marcel Mauss, Paris, 24-25 décembre 1915. Mon cher Marcel, c'est l'heure joyeuse du réveillon. J'ai vu dimanche Jules Bloch encore à Asnières. La guerre a fait de lui un homme. Les enfants ont dû quitter leur cantonnement de repos pour retourner sur le front. Mais j'ignore encore où ils sont. Ils en étaient au branle-bas du départ dimanche dernier. Durkheim a dû vous informer que nous siégeons tous les deux dans un comité rattaché à l'Office de la propagande et qui se propose d'agir sur les Juifs américains. Mes cours fonctionnent comme en temps de paix. Je n'arrive pas à m'y faire. Et pourtant, quand je suis là, en face de mes élèves, à lire l'Uttara Ramacharita de Bhavabhuti, la prodigieuse beauté de ce style et l'intensité de ce pathétique me prennent, m'empoignent, et j'oublie tout pour un instant. Les vieux bateaux sur la puissance magique de l'art étaient absolument vrais. Nous ne savions pas, faute d'en avoir l'expérience, combien « a thing of beauty is a joy forever ». Là, Sylvain Lévy cite un vers de John Keats, et il conclut « Et c'est pour sauver la beauté qu'il nous faut tout souffrir, tant souffrir. Le monde boche serait trop laid pour qu'on supporte d'y vivre. Je vous embrasse cordialement, Sylvain. »
Troisième thématique, les voyages en Asie, en Inde, au Japon, les villégiatures, les lieux des uns et des autres. On sait quand Marcel Mauss est en Angleterre, en Hollande, etc. Quatrième thématique, les échanges savants. Alors cela concerne surtout des conseils bibliographiques au début de la carrière de Mauss quand il était élève de Sylvain Lévy, des nouvelles sur les collègues, les réunions à l'EPHE ou les élections de professeurs. Voici l'exemple d'échange en 1927, si on a le temps, entre Sylvain Lévy et Marcel Mauss qui décrivent les stratégies d'élection à l'EPHE et donnent un aperçu des échanges aussi personnels. Alors Sylvain Lévy et Désiré Lévy sont au Japon à ce moment-là. Voici la lettre.
Sylvain Lévy à Marcel Mauss, maison franco-japonaise, Tokyo, le 6 février 1927. Mon cher Marcel, je reçois ta lettre du 1er janvier et j'y réponds tout de suite, avant tout pour te communiquer la copie d'une lettre que j'envoie à Defay. Cet homme est plus bête que nature, sa lettre est navrante. Il veut à tout prix introduire Lotz et il se dépêche de me dire qu'il t'en a parlé et que vous êtes d'accord. D'accord sur quoi? En tout cas, il faut empêcher l'islam de sauter et trouver une personne apte. Marseille serait idéal, mais il est surchargé et refusera. Massignon. On a un parti pris contre lui. Ce n'est pas un philologue, mais il a le sens des faits religieux et le suffrage des arabisans anglais et russes que je connais me garantit sa réelle valeur. Veux-tu que nous tendions un petit traquenard à l'honnête de Feuille? Dis-lui que je t'ai écrit, que je lui ai écrit au sujet de la succession Var. Et demande-lui de donner connaissance à toi ou à la section des parties intéressantes. J'espère qu'il sera assez honnête pour n'en rien dissimuler, mais je voudrais en être sûr. » Fin de citation.
Et voici la réponse de Marcel Mauss 2 mois plus tard.
Marcel Mauss à Sylvain Lévy et Désiré Lévy, Paris, 9 avril 1927. « Chère madame, cher Sylvain, je vous écris à la machine pour que, exceptionnellement, vous puissiez lire ma lettre. Il s'agit de la dernière séance de l'école, dimanche dernier. Defay a lu ta lettre, assez complètement, sans incident, et personne n'a remarqué autre chose, sinon que tu parlais Massignon, que tu parlais de Massignon. » Fin de citation.
En conclusion, cette correspondance est à appréhender autour d'une triple asymétrie. Asymétrie dans les archives, asymétrie dans la correspondance, et donc dans le contenu des lettres. Premièrement, du point de vue des archives, on a un massif de documents qui constitue le fonds Marcel Mauss du Collège de France. Mais il n'existe pas un fonds Sylvain Lévy équivalent. Dans ce cas, il y a une dispersion des archives et des correspondances qu'il faut rassembler. Deuxièmement, du point de vue de la correspondance proprement dite, au plein du côté Lévy, répond un creux, un manque du côté Mauss. Il y a en effet un volume conséquent des lettres de Lévy à Mauss, mais inversement, en raison même de l'histoire des fonds, nous n'avons pas des lettres de ce dernier. Enfin, troisièmement, dans le contenu même des lettres, ce manque du côté Mauss ne permet d'esquisser qu'un portrait en creux qui se dessine dans les perceptions que Sylvain Lévy, Désiré Lévy et toute la famille donnent de Marcel Mauss dans leurs lettres. En tout état de cause, cette correspondance doit donc être considérée comme le fruit d'une relation entre deux savants qui partagent des affinités électives, professionnelles et personnelles. Affinités professionnelles parce que la première cause visible de leur lien est leur activité de savant intéressé par des domaines proches, sans toutefois appartenir à un même champ disciplinaire. Affinités personnelles parce qu'il entre dans leur lien leur commune judéité, qui s'exprime par un engagement plus ou moins explicite en faveur des Juifs opprimés. Entrer dans cette correspondance par la relation qui s'élabore à l'intérieur d'une configuration complexe permet d'échapper à une illusion, celle d'une relation exclusivement savante, posée comme uniquement constituée de rapport à l'activité et au projet intellectuel. Donc ça appuie ce que vous disiez tout à l'heure. On se prend à saluer la généralisation du double carbone de la dactylographie dans les années 20 qui nous permet d'avoir au moins quelques doubles des lettres de Marcel Mauss à Sylvain Lévy lorsque celui-ci est au Japon. On se prend aussi à rêver à ce que serait finalement un fonds Sylvain Lévy si la constitution des archives n'était pas tributaire de la période où celles-ci se font archives ou traces d'archives. Je vous remercie.
Merci d'avoir fait revivre, à travers la correspondance entre Sylvain Lévy et Marcel Mauss, une relation à l'évidence chaleureuse, avant-culaire et professionnelle, avec tous les détails habituels des stratégies électorales dans ces institutions que l'un et l'autre, à l'évidence, maîtrisaient fort bien. Je suppose qu'il y a des questions concernant cette...